Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Radio, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Et j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir alors un éditeur, un écrivain, et il est en train de produire une monumentale biographie sur De Gaulle. Jean-Luc Barré, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir
bonjour.
Dans Wagon Livre. Alors, vous êtes, bon, je l'ai dit, vous avez été éditeur, vous êtes le
co-éditeur.
Vous êtes éditeur, vous êtes toujours co-éditeur des mémoires de De Gaulle dans la Pléiade, éditeur des trois volumes de ses lettres, de ses notes et carnets dans la collection Bouquins. Vous avez fait paraître Devenir De Gaulle chez Perrin en 2004. Et puis, il y a cette trilogie, ces trois tomes. Là, j'ai le tome 2 entre les mains. Le premier des Français, 1944-1958. Le tome 1 a obtenu en 2023 chez Grasset le prix Renaudot Essai et le grand prix de la biographie historique du Touquet. Je fais simple, mais y a-t-il des éléments biographiques qu'il faudrait ajouter sur Jean-Luc Barré?
Oh, oui, mais on ne va pas passer l'émission là-dessus. Non, mais j'ai écrit aussi une biographie en deux volumes de François Mauriac. Enfin, il y a des cohérences, je pense, dans ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire, c'est des univers qui se recoupent. Non, vous avez dit l'essentiel. C'est De Gaulle, enfin, il y a, je dirais, depuis très longtemps, je voulais faire ce livre, je voulais me lancer dans cette grande aventure, parce que je suis un admirateur du général, mais au-delà de ça, j'ai voulu faire un travail qui soit un vrai travail d'historien. Donc un travail un peu distancié, et pas un travail hagiographique. Il y a dans ce livre de quoi... Parfois un peu agacé les gaullistes, mais en général, d'ailleurs, ils seront contents de ce livre, je pense. Mais il y a aussi, pour tous les autres, un accès au général qui n'avait peut-être pas été jusque-là offert au lecteur. C'est vraiment, une enquête très fouillée, un portrait très fouillé d'un homme très complexe.
Donc le tome 1, paru en 2023 chez Grasset, votre éditeur, donc L'Homme de Personne. Le tome 2, dont nous allons parler aujourd'hui, a pour titre « Le premier des Français » et couvre la période de Gaulle qui descend les Champs-Élysées dans ce raz-de-marée de cette France libérée 1944 jusqu'au retour de Gaulle en 58. Et alors le troisième volume qui aura pour titre « Le dernier souverain » paraîtra 2027 ?
Si tout va bien 2027, je dis si tout va bien parce que c'est évidemment la partie la plus, non pas la plus longue d'ailleurs, parce qu'au fond c'est le premier volume qui couvrait une longue période de sa vie, mais c'est quand même toute l'histoire de la Ve République gaullienne. Donc je pense que dans 2 ans, on pourra peut-être se revoir. Oui.
Alors Jean-Luc Barré, 1944, il faut tout de même rappeler que la France est un pays exsangue, qu'il y a 600 000 morts, 2 millions de déportés et prisonniers, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité, la France connaît la pénurie, c'est les cartes d'alimentation, la hausse des prix, le marché noir aussi, et puis il y a l'épuration, on y reviendra. Bon, enfin, en 1944, le premier des Français, c'est De Gaulle, qui doit faire reconnaître sa légitimité auprès des... Alors, les Français, sans doute, en grande majorité, sont acquis à cet homme qu'ils considèrent comme l'homme de la libération du pays. Ce n'est pas le cas forcément pour les Britanniques ou les Américains ou les Soviétiques.
Non, enfin, après, légitime auprès des Français, oui, il y a quand même toutes sortes de Français dans cette histoire. Il y a ceux qui ont été des résistants, ils n'étaient pas très nombreux, ils le sont devenus avec le temps, bien sûr. Il y a les opportunistes, ceux qui... je vous rappelle quand même que le maréchal Pétain était célébré encore à Paris au mois de mars 1944, quand il est venu. C'est pas de ce côté-là que finalement la partie la plus dure à jouer. En effet, le plus dur, c'est du côté des Alliés, puisqu'au fond, quand il arrive en août 44, son gouvernement n'est toujours pas reconnu par les Américains. Et donc, qui sont très, très dubitatifs sur le, Roosevelt est très dubitatif sur la possibilité que De Gaulle puisse gouverner ce pays. D'autant plus dubitatif que les Américains entendaient bien gouverner ce pays et l'administrer avec une monnaie qui aurait été américaine, etc. Donc, au fond, De Gaulle est censé faire ses preuves, quelque part, et prouver que lui, vraiment, on peut lui faire confiance. Donc, c'est pas une inquiétude personnelle qu'il a, mais il sait qu'il y a, parce qu'il sait qu'il est, il sait qu'il est le seul, en fait. Il sait qu'il est le seul. La plupart de ses rivaux ont été éliminés. Alors, il y a à ceci près qu'il y a une autre possibilité, c'est un coup de force communiste. Ça, c'est pas du tout improbable. En 1944, s'il n'y a pas De Gaulle, les communistes, à l'époque, c'est le parti le plus puissant de France, c'est le parti des 75 fusillés, donc un parti qui s'est approprié une sorte de monopole sur la résistance. C'est un parti dominant en province, dans la plupart des grandes villes de province. Donc De Gaulle est sur plusieurs fronts à la fois, mais en effet, sa légitimité ne se joue pas à ses yeux. Il considère qu'il est légitime depuis le mois de juin 40. Mais là, effectivement, il y a une partie politique, sociale, économique à jouer, qui est très très difficile à jouer.
Alors si je vous ai bien lu Jean-Luc Barré... De Gaulle, quand il reprend les affaires de la France en main, fin 44, il y a trois grands axes. J'essaie de les résumer, mais oui. Vous nuancez et oui, vous me corrigez non, si je me trompe. Rétablir l'ordre et l'État. Continuer la guerre, puisqu'il faut...
La guerre n'est pas finie,
notamment dans les provinces de l'Est de la France, et peut-être aussi un peu sur la côte atlantique.
Oui, exactement, oui, bien sûr.
Bon, on a l'Empire aussi, ne l'oublions pas quand même. Et puis, il faut redonner à la France sa place dans le monde. C'est la raison pour laquelle il veut vraiment que la France soit aux côtés des vainqueurs de l'Allemagne défaite et reconnue comme ayant participé à la défaite de l'Allemagne nazie.
Oui, ça, c'est le grand défi gaullien, si vous voulez. Quand en juin 40, il lance son appel, il le dit clairement que la victoire sera, que la défaite allemande est inévitable et que la France participera, mais la France doit participer au combat. Il y va d'ailleurs au passage de son indépendance à terme, parce que si elle n'est pas dans la bataille, il est difficile qu'elle puisse revendiquer face au vainqueur un avenir particulier. Donc, c'est une des conditions finalement pour lui de la survie, ou plutôt du retour de la France comme grande puissance, parce qu'il a toujours été convaincu que la France pouvait redevenir une grande puissance. Et donc, en effet, il va constituer la première armée, et entre nous soit dit, cette armée s'est beaucoup battue, c'est pas théorique tout ça. Il y a eu quand même beaucoup de morts, des combattants, il y a la première armée ira jusqu'à Berlin. C'est une volonté d'être présent, en effet, mais c'était pas du tout acquis, puisque quand le général Delattre se présentera à Berlin, ça sera un peu à la stupéfaction générale, y compris de l'ennemi, du maréchal Keitel, et puis même des Anglais et des Américains, quelque part, considéraient que bon, la France, elle pouvait être aussi absente, quelque part. Donc, c'est un enjeu à la fois militaire, stratégique et politique, parce qu'il y va, encore une fois, du retour de la France. De Gaulle est obsédé par le rang, la France. Il faut que la France retrouve son rang. Le rang qu'elle avait avant, il faut qu'elle le retrouve malgré cette défaite. Donc c'est une des grandes réussites de Gaulle, c'est d'avoir obtenu ça.
Est-il vrai que alors c'est le cas de Göring et d'Himmler, ont essayé de proposer une paix séparé à De Gaulle,
oui,
c'est-à-dire de doubler un peu les alliés américains
pas qu'à De Gaulle. Attendez, vous avez affaire là à deux, c'est surtout Himmler d'ailleurs, c'est surtout des gens qui sont aux abois et qui essaient de sauver leur peau. Donc, effectivement, De Gaulle a reçu une lettre lui expliquant que son intérêt, c'était de s'entendre avec l'Allemagne et qu'il n'avait rien à attendre des alliés. Alors, c'était d'autant plus odieux que De Gaulle savait parfaitement que sa nièce, Geneviève De Gaulle, était emprisonnée, était prisonnière des Allemands, qu'elle avait d'ailleurs beaucoup souffert dans le camp où elle était. Donc, il n'a pas donné suite. Mais en effet, c'est des tentatives qui se sont, évidemment, contournant Hitler, qui était probablement mort à cette date d'ailleurs, non pas encore, mais en tout cas qui était lui-même aux abois de manière définitive. Donc il y a eu c'est plus des manœuvres du dernier moment et de, alors ils ont appuyé en même temps, c'était assez malin parce que finalement ces leaders là, que ça soit Himmler ou Göring, ils appuyaient sur le, ils savaient très bien qu'il y avait eu quand même des problèmes entre De Gaulle et les alliés, donc c'était une manière de dire voilà, au fond nous sommes vos meilleurs défenseurs, ce qui est évidemment un comble.
Alors il y a aussi tout de même la volonté de légaliser des forces clandestines. Je pense quand même aux gens des maquis, la résistance communiste, qui continue, enfin qui fait sa loi dans certains départements, qui ne veut pas reconnaître la nouvelle autorité politique à travers De Gaulle ou les préfets. C'est compliqué cette période de l'épuration. J'ai l'impression même qu'en France,
c'est pas l'épuration. Enfin, l'épuration, c'est autre chose. L'épuration, elle s'exerce pas contre les résistants quand même.
Non, mais je veux dire, il y a quand même eu des débordements.
Oui, bien sûr.
Des débuts d'épuration.
Bien sûr. Organisés par les mouvements résistants, bien sûr. Pas seulement d'ailleurs par la population. Vous savez, la population faisait sa propre épuration, si je puis dire. Beaucoup de femmes qui ont été tondues à la libération, c'est pas sur ordre d'un gouvernement ou de. C'est des réflexes spontanés. Il a affaire à un pays, ne l'oublions pas, vous l'avez dit au début de l'entretien, c'est un pays exsangue, c'est un pays qui est au bord de la guerre civile, c'est un pays où l'État a disparu. Vichy a disparu du jour au lendemain. Bon, il faut reconstruire un État. Et Vichy ne tenait pas toute la France. Donc, la situation à laquelle De Gaulle est confronté est très paradoxale. C'est-à-dire, à la fois, il revient en métropole, il a gagné la partie grâce au soutien, pas seulement d'ailleurs, parce qu'il y a aussi sa propre armée, la France libre et la France combattante, mais enfin, les mouvements résistants ont ô combien participé à la victoire finale. Et en même temps, ils ont une sorte de primauté, parce qu'ils se sont installés dans des régions, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille, où ils sont quand même en position de force. Ils exercent un pouvoir, y compris politique, qui va contre l'idée même de l'État. Parce que l'État, pour De Gaulle, c'est l'unité et c'est l'ordre public. C'est pas les tribus, quoi. Pas chacun fait pas ce qu'il veut dans son coin. Donc, et qui plus est, en effet, il y a la question de l'épuration, qui est une épuration sauvage. Celle qu'il va lui organiser est une épuration d'État, mais pas une épuration sauvage. Et donc, c'est effectivement De Gaulle, à ce moment-là, très rapidement. Vous savez, il y a un épisode quand même très, très important pour comprendre aussi sur l'état d'esprit. C'est quand il est arrivé après le fameux défilé des Champs-Élysées, il va à Notre-Dame, il se fait canarder.
Oui. Alors, donc, de qui venaient les tirs?
Bon, écoutez, en tout cas, ce qu'il finit par dire en 1955, dans un entretien inédit que je publie avec Georgette Elger, c'est qu'il pense que c'est les communistes. Voilà, il désigne très clairement les communistes après avoir dit dans ses mémoires, écrit surtout à sa femme à ce moment-là, des gens qui tiraient sur les pigeons. Enfin voilà, il a essayé de trouver il voulait pas incriminer directement les communistes. Mais il n'avait aucun doute là-dessus. C'était pas forcément pour le tuer, d'ailleurs, encore qu'il aurait pu être tué, mais c'était pour l'impressionner, pour déstabiliser. Il mesure bien qu'il y a une volonté de déstabilisation du pays. Or, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider, à partir de là, de restaurer l'État dans les meilleurs délais. Et pour cela, il va faire le tour d'un certain nombre de grandes villes pour mater la résistance, pour la forcer à rentrer dans le rang, évidemment, en utilisant des méthodes qu'on peut qualifier de brutales, d'expéditives, en intimant l'ordre à ces maquis de rentrer dans le rang. Et s'ils veulent continuer à se battre, alors ils vont se battre dans la première armée. On va passer de l'armée irrégulière, si je puis dire, à l'armée régulière.
Alors la première armée, c'est l'armée de Lattre, qui était un peu le chouchou de Gaulle.
Ah non, c'est exactement l'inverse. Non.
C'est Leclerc. Alors
c'est Leclerc, le chouchou. De Lattre, vous savez, Leclerc est entré a rejoint De Gaulle tout de suite. De Lattre, qui était d'ailleurs qu'il connaissait bien, puisqu'ils avaient été ensemble à Saint-Cyr, et que leur relation était bonne, mais enfin sans plus, a attendu fin 42 pour rejoindre Alger. Alors, d'abord, un peu par volonté personnelle, quand même, parce que finalement, il se méfiait de De Gaulle. Après, il a été emprisonné, donc il a réussi à s'évader au terme d'un processus qui reste un peu mystérieux, un peu comme le général Giraud, d'ailleurs. Bref, il arrive en 42 à Alger, et la générale De Gaulle, Yvonne De Gaulle, dit à la future maréchale de Lattre, qui ne l'avait toujours pas digérée, moi je l'ai connue, la maréchale de Lattre, elle me le racontait encore 50 ans après, Yvonne De Gaulle lui dit « On vous a attendu bien longtemps ». Bon, c'est pas une phrase, c'est pas un mot d'accueil absolument chaleureux. Et donc, en effet, De Lattre arrive tard. Et De Gaulle faisait passer une espèce d'examen à tous ces gens qui arrivaient tard, qui le rejoignaient. Bon, enfin, en même temps, il connaissait la valeur militaire de Lattre, qui est un grand soldat, la question se pose pas. Et il va lui confier quand même, la première armée. Donc, c'est pas rien. Et donc, en effet, c'est le moment où on organise quelque part un combat, j'allais dire normal, qui n'est pas un combat uniquement un combat clandestin.
Cher Jean-Luc Barré, on marque un premier intermède musical, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous signez aux éditions Grasset une, on peut dire, une monumentale biographie.
Tout le monde dit ça, je finis par le croire.
Ben oui, en trois volumes. On s'arrête aujourd'hui sur le tome 2 qui est sorti à l'automne 2025.
Sorti en octobre 25.
Et qui a pour titre Le premier des Français, qui couvre la période 1944-1958. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité.
Voilà ce que nous sommes. Amorce de sourires et de bombes, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi. On s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi.
On se révolte, on se soumet.
Toi contre moi.
La guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi.
Pourvu qu'on reste les meilleurs ennemis du monde. Et tant pis si on est le mariage du ciel et de l'ombre.
Wagon Livre. votre émission littéraire.
Jean-Luc Barré nous accompagne aujourd'hui sur Radion avec le tome 2 de la trilogie biographique De Gaulle, une vie, le premier des Français 1944-1958. Je reviens, Jean-Luc Barré, à, vous l'avez dit, cette descente triomphale et hautement symbolique de Gaulle à Paris. Hein, c'est précisément le 26 août 1944, avec ensuite ce déplacement jusqu'à Notre-Dame de Paris. Dans la foule, il y a un jeune homme qui s'appelle Georges Pompidou et qui va être amené. Alors je ne savais pas, je l'ai appris en vous lisant, je ne savais pas que Georges Pompidou avait été présenté au général de Gaulle puisqu'il avait besoin d'un agrégé sachant écrire.
Ça c'est un peu la légende, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit après coup, mais Pompidou est arrivé par un des collaborateurs, très proche collaborateur de Charles de Gaulle, qui est René Brouillet. Ils étaient liés. Pompidou fait partie de ceux qui n'ont pas eu un début de résistance. C'est quelqu'un qui n'a jamais été engagé dans la résistance. Donc ça aurait pu être un problème, ça ne l'a pas été. Il n'a pas non plus été évidemment mêlé à la collaboration. C'était un enseignant, etc., doué, très intelligent, très rapide et d'esprit, enfin, ce qui a beaucoup compté pour De Gaulle. Mais il savait écrire, en effet. Mais ce n'était pas ce que cherchait De Gaulle. Enfin, je crois que De Gaulle ne cherchait rien de particulier. On lui a présenté ce normalien, ce professeur, et assez vite, il s'est imposé, enfin discrètement, mais il a commencé par rédiger des notes sur l'état du pays, etc. Donc De Gaulle a remarqué en effet la pertinence de ce garçon qui ensuite d'ailleurs, intelligemment d'ailleurs, s'est rapproché aussi d'Yvonne De Gaulle, s'est occupé ensuite de la fondation Anne De Gaulle, donc qui a joué un rôle de proximité, mais qui s'est introduit dans l'entourage essentiellement de général De Gaulle, qui est devenu ami de Malraux assez vite, enfin voilà. Oui. Donc il s'est fait, mais en effet il est dans cette foule du mois d'août 44, et il est anonyme. Totalement anonyme, mais alors un peu fasciné par ce personnage qu'il voit, mais enfin, il connaît pas De Gaulle, quoi. Il le connaîtra progressivement.
Alors, puisqu'on parle, bon, on sait Pompidou agrégé de lettres, on sait qu'il, bien sûr, président de la République, mais aussi auteur d'une anthologie de la poésie française. Il y a deux écrivains qui vont entourer De Gaulle et très tôt. Il y a d'abord celui qui deviendra prix Nobel de littérature en 52, c'est Mauriac. Mmh. Et puis il y a ce communiste un peu déçu qui est André Malraux.
Oui, enfin c'est évidemment deux sortes d'hommes.
C'est deux parcours.
Mais ça prouve bien d'ailleurs la capacité de De Gaulle à rassembler autour de lui des hommes et des femmes d'origine très diverses. Alors tout ça s'explique, j'allais dire que le plus proche de Gaulle, en définitive, aura été Malraux, plus que Mauriac. Mauriac est un écrivain... D'abord, gaulliste, alors vraiment, pour le coup, s'il y a un résistant irréprochable, ce qui n'a pas été Malraux tout à fait, puisque Malraux est entré en résistance quand même en 44, mais enfin, il l'a été en résistance. Mauriac a pris beaucoup plus de risques, si je puis dire. Mauriac, il n'a jamais quitté la zone occupée, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Paris. Et il a écrit des livres dans la clandestinité, et évidemment, il ne connaissait pas De Gaulle, lui non plus, quand il a vu De Gaulle la première fois, c'est-à-dire à l'automne 44 à Paris. Il ne faut pas dire que les relations soient immédiatement très chaleureuses, parce que Mauriac est assez proche à ce moment-là des communistes en tant qu'ancien résistant. Il n'est pas du tout communiste, bien sûr, mais il fait partie des mêmes organismes, ce qu'on appelait le Front National à l'époque, le Front National des Écrivains. Il rencontre De Gaulle, le contact n'est pas très bon, parce qu'il s'attend à ce qu'on lui parle de ce que De Gaulle le consulte sur l'état du monde, et De Gaulle ne lui parle que de l'Académie française, ce qui l'agace un peu. Et quant à Malraux, alors après, Mauriac, dévotion à l'égard de Gaulle, mais en même temps indépendance d'esprit. Par exemple, il va dénoncer toute l'épuration, y compris celle qu'organisera, orchestrera De Gaulle. Malraux, c'est autre chose. Malraux, c'est effectivement, c'est un communiste déçu, mais c'est en même temps un homme qui est à la recherche de l'homme providentiel, du grand homme, enfin, voilà. Et De Gaulle, pour lui, incarne très rapidement, il va le rencontrer, il est très séduit par ce personnage. De Gaulle a besoin d'une caution intellectuelle de cet ordre, parce qu'au fond, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels autour de lui. Bernanos vient pas, il y a Malraux. Et d'abord, il aime La Condition humaine, il a lu La Condition humaine, qui est un grand texte. Il disait que le plus grand écrivain pour lui, c'était Mauriac, mais en même temps, il y avait La Condition humaine, qui est effectivement un grand texte, un grand roman politique. Mais pour un homme comme De Gaulle qui n'était pas communiste, c'est évident que Malraux apporte une caution nationale plus qu'une caution idéologique. Et puis c'est le grand confident, c'est le grand écrivain, c'est l'homme ensuite qui va orchestrer les grands messes du RPF. Voilà. Mais il y a une vraie amitié entre les deux hommes.
Et c'est le fils donc du romancier Mauriac qui devient secrétaire.
Alors, c'est, en effet, c'est le fils Claude Mauriac devient... D'abord, il y a deux Mauriac. Il y a Jean Mauriac, que j'ai bien connu, et qui était journaliste et qui est devenu le correspondant de l'AFP, attitré auprès de De Gaulle jusqu'à la fin de la vie de De Gaulle, et qui est déjà là en 1944. Et puis, bien sûr, il y a Claude Mauriac, qui lui non plus n'avait pas été un grand résistant, mais enfin, bon, il s'appelle Mauriac, et il va devenir à la fois le secrétaire, le confident, pas l'ami, mais le confident de De Gaulle. Son journal raconte des... J'en reproduis des extraits, bien sûr, raconte un De Gaulle vu de près, qui est parfois déconcertant. Moi, je pense qu'il a toujours été déconcerté par De Gaulle, et que c'est pas quelqu'un... Il a parfaitement... Vous savez, comprendre De Gaulle, c'était quand même quelque chose de très particulier, parce que cet homme, à la fois, était très, très lointain, et capable d'humeurs massacrantes, péremptoire, se livrant de temps en temps, une vraie sensibilité, mais enfin la sensibilité s'exprimait pas très facilement, donc il pouvait être très déroutant. Et je pense que Malraux n'a jamais été dérouté par exemple par De Gaulle, mais que encore que, mais Claude Mauriac l'a été. En tout cas, Claude Mauriac est devenu le confident de De Gaulle jusqu'en 54. Oui.
Il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé, c'est le chapitre 7, intitulé « Justice, dépuration ». Parce que effectivement, il y a un grand nombre d'écrivains qui ont eu des problèmes. Il s'agit quand même de réprimer les crimes de la collaboration, et la collaboration a diverses formes. Alors, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur de Vichy, Pierre Pucheux, qui bénéficie d'une instruction expéditive et qui va être fusillé à titre d'exemple. Il y a le journaliste Georges Suarez, qui est exécuté le 9 novembre 1945. Alors après... Il y a les procès politiques, il y a l'été 45, le procès du maréchal Pétain, 89 ans. Alors là aussi, Pétain, condamné à mort, mais la peine est commuée en incarcération jusqu'à la fin de ses jours en raison de son grand âge.
Pas seulement, je pense que c'est une des raisons. D'abord, De Gaulle ne souhaitait pas que Pétain revienne en métropole, donc il a tout fait pour le dissuader de venir et préférait qu'il reste en Suisse parce qu'il ne voulait pas. Ce que redoutait De Gaulle, il l'a redouté pour Maurras aussi, c'est que ses procès finissent par aggraver la division encore de la nation. Bon, exécuter le maréchal Pétain, c'était à ce moment-là, ça aurait peut-être été justifié en raison de ses actes, mais ça, le regard politiquement et au regard de l'unité de la nation qu'on voulait refaire De Gaulle, ça perpétuait des déchirures, des déchirements durables. Il n'a pas eu les mêmes scrupules avec Laval, mais enfin, après, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chaque... De chaque dossier. Vous parlez de Pierre Pucheux tout à l'heure. C'est pas seulement pour l'exemple. Pierre Pucheux avait été ministre de l'Intérieur de Vichy. Et il était un des responsables de la désignation de ceux qui avaient été exécutés à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Bon, après il a expliqué que c'est pas lui, mais enfin globalement il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Effectivement, c'est un procès politique aussi parce que les communistes font pression. Sur le procès de Robert Brasillach. Bon, Robert Brasillach est un écrivain qui a dirigé Je suis partout et qui avait, si brillant soit-il, et Mauriac l'a défendu, mais enfin tout de même, Je suis partout, c'était une revue dans laquelle, enfin une revue si on peut dire, un journal dans lequel on trouvait jusqu'à la fin l'adresse des Juifs qui n'avaient pas été encore arrêtés. Donc il suffisait que les Allemands se servent, ils trouvaient de qui ils voulaient. Enfin écoutez, on ne peut pas faire plus ignoble. Bon, donc je considère que... Même si je ne suis pas pour la peine de mort, mais je considère qu'il y avait une justice à rendre.
En tout cas, De Gaulle refusera la grâce à Robert Brasillach,
absolument.
Qui est condamné à mort le 19 janvier 45.
Voilà, il l'accorde à Henri Béraud, sous pression d'ailleurs de Mauriac, mais il considère que non, le dossier est trop lourd. Sur Philippe Pétain, une fois que Philippe Pétain vient en métropole contre l'avis de De Gaulle, il était impensable. De Gaulle avait fait savoir par avance qu'il le gracierait. Bon. Au nom de l'unité nationale, au nom aussi d'une vieille relation, c'est évident, ils se connaissent depuis toujours, enfin pas toujours, mais en tout cas ils se sont beaucoup affrontés, enfin il a quand même travaillé avec lui, il connaissait la valeur du soldat, il parle d'un naufrage évidemment, pour lui c'est un naufrage Vichy, Pétain Vichy c'est un naufrage absolu, c'est le naufrage du grand âge, mais c'est aussi un naufrage politique. Donc il va le gracier, et d'ailleurs personne ne lui a vraiment reproché ça. Après, les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès de Pierre Laval sont évidemment plus discutables, ouais. Mais Pierre Laval a des responsabilités majeur dans la collaboration, Pétain aussi, mais d'une autre manière.
Il faut dire que Laval allait parfois au-devant des exigences allemandes.
Oui, bien sûr.
C'est les Allemands qui voulaient l'aval.
Écoutez,
absolument.
Les gens qui disent que le gouvernement de Pétain n'a pas finalement maltraité autant que ça les Juifs oublient complètement de dire que d'abord, il y a eu l'affaire du Veldiv, c'est pas rien, et ensuite organisée par les Français, et d'autre part que effectivement les Français, ce gouvernement est allé au-delà même des exigences allemandes. Donc voilà, c'est évident qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre au génocide.
En tout cas, selon les lettres françaises, il y a 94 écrivains indésirables, parmi lesquels, vous en citez quelques-uns, donc Louis-Ferdinand Céline, donc Drieu-La Rochelle, Brasillac, Jacques Chardonne, Marcel Jouhandeau, Jean Giono, Paul Morand.
Pour des raisons diverses d'ailleurs. Giono, c'était pour des questions de pacifisme. Morand, c'était quand même... il était ouvertement collaborationniste. Bon, et sa femme était ouvertement antisémite, en plus. Céline, bah, évidemment, Céline, les écrits de Céline sont ignobles. À la fin, je parle de ceux qu'il a publiés à la veille de la guerre. Chardonne, il avait fait le voyage à Berlin avec d'autres écrivains. C'était à des degrés divers, mais c'est vrai que la liste est longue et tous ont été, d'une manière ou d'une autre, épurés.
Alors, De Gaulle... à un gouvernement en 44, pourquoi le général de Gaulle, de retour en France et à Paris, pourquoi ne s'installe-t-il pas à Matignon ?
Oh, pour une raison très simple, c'est que, d'abord, il avait, vous savez, la symbolique, ça compte beaucoup chez de Gaulle. Il avait quitté l'hôtel de Brienne, d'ailleurs le ministère de la guerre, en juin 40, au moment où les Allemands sont entrés dans Paris, vous allez entrer dans Paris, et... c'est une manière de dire, au fond, j'ai quitté, mais je reviens là où... la continuité, finalement. C'est la continuité. Bon. J'ai quitté Paris à ce moment-là, mais je reviens là. Nous étions battus, nous sommes vainqueurs, dans les mêmes lieux. Je précise, d'ailleurs, l'hôtel de Brienne, c'est le lieu d'où Clémenceau avait dirigé aussi la Grande Guerre, enfin, à partir de 1917. Donc, c'est chargé de symboles. Il aime le lieu, en plus. Matignon, pour lui, c'est le symbole inverse. Matignon, c'est l'endroit... où tous ces régimes de la Troisième République qu'il déteste, les chefs de gouvernement résidaient là à partir des années 30, hein, ça n'a pas toujours été le cas, mais donc c'est un symbole politique qu'il rejette. Et il ne veut pas, en effet, alors il y a des conseils des ministres qui s'y tiennent, mais il est hors de question pour lui de paraître perpétuer, là pour le coup, il veut bien perpétuer les combats à Brienne, mais il ne veut pas perpétuer un exemple politique, une mauvaise gestion politique, c'est le moins qu'on puisse dire, en étant à Matignon, et il aura toujours beaucoup de mal à s'y trouver, de même que l'Élysée, d'ailleurs pour d'autres raisons, mais ça l'Élysée c'est plus tard.
Alors effectivement, il y a des noms qu'on a un petit peu oublié parmi ces ministres de Gaulle. Bon, il y a Jules Jeannet, André Tixier, bon, Pierre Mendès-France à l'économie, André Diethelm, Georges Catroux, René Capitan, René Pleven, que de Gaulle a beaucoup apprécié, je crois.
Oui, enfin, Pleven l'avait rejoint, est un des premiers à l'avoir rejoint. C'est incontestablement un des bras droits de Gaulle à la France libre. C'est un compagnon de la première heure. Il l'appréciera jusqu'au moment où, je le raconte aussi dans ce volume, Pleven refuse de le rejoindre au RPF. Et Pleven est profondément un démocrate chrétien, enfin en tout cas un homme de sensibilité démocrate chrétienne, même s'il n'est pas dans ce parti, mais enfin il est très proche. Et de Gaulle, Pleven n'apprécie pas du tout que de Gaulle veuille faire de la politique après son départ du gouvernement en 1946. Avec un parti qu'il soupçonne d'être un parti un peu trop à droite, ce qui est très contestable. En tout cas, De Gaulle lui en voudra durablement. De Gaulle avait la mémoire longue. Et il n'a pas apprécié qu'un certain nombre des siens qui étaient ses compagnons ne lui fassent pas confiance et ne le rejoignent pas. C'est un peu le cas de Mendès. Mendès est encore une autre relation.
Alors, il faut quand même donner quelques postes à des ministres communistes, parce que le Parti communiste, c'est 1 million d'adhérents dans ces années 44-46.
Oui, il n'était pas question pour De Gaulle de ne pas leur donner de responsabilité. Il y avait un problème à régler, dont il s'est servi d'ailleurs pour faire pression sur le Parti communiste, c'est la position de Maurice Thorez. Maurice Thorez, secrétaire général du Parti, qui s'en va à Moscou au début de la guerre.
Qui déserte, donc.
qui est condamné pour cela d'ailleurs, mais enfin il n'est pas là.
Et, bah, de Gaulle aussi.
Et, oui, oui. Mélangeons pas tout, c'est pour d'autres raisons. Oui, en effet, de toute façon, à l'époque, on disait, enfin, vous, deviez, bah, vous pouvez comprendre, vous, puisque vous aussi vous êtes parti, mais enfin, ce n'est pas l'argument qu'il pouvait le mieux entendre. Lui n'est pas parti, il n'a pas déserté, il est parti pour combattre, là où Thorez est resté chez lui, à Moscou, si je puis dire. Et en effet, dès le mois de. À la fin de l'automne. 43, la question se pose, il restitue l'Assemblée consultative, il rétablit les institutions démocratiques, en fait, à Alger, et il y a un premier gouvernement, et là, ça se passe très mal avec les communistes, dont les communistes, finalement, qui sont exigeants, qui ne cesseront pas d'être exigeants sur les postes qu'ils veulent occuper, rien moins que le ministère des Armées, rien moins que l'Intérieur, rien moins que les Affaires étrangères, bref, tous les postes régaliens, voilà. Donc De Gaulle, bien sûr, refuse, donc ils ne font pas partie du gouvernement à la zone 43, ils en font partie en février 44, précisément au moment du procès Pucheux, avec quelques postes, mais des postes mineurs, il y aura toujours une partie de bras de fer. Et au fond, il va monnayer quelque part le soutien du Parti communiste par le retour de Maurice Thorez. Il l'acceptera, mais c'est évidemment pour une question politique, il va le négocier avec l'URSS, mais en tout cas, il accepte le retour de Maurice Thorez. Et ça sera une partie de bras de fer jusqu'à la fin, puisque de toute façon, les communistes n'obtiennent pas les ministères qu'ils veulent, mais ils font quand même partie du gouvernement, mais ils font partie de ceux qui vont contribuer à la chute de Gaulle en janvier 46. Enfin, chute volontaire d'ailleurs.
Oui. Alors il y a toute une classe politique française des noms de l'époque, cette instabilité ministérielle après le départ de Gaulle, hein, ce qui provoquera son retour en 58. Mais bon, il y a Georges Bidault qui a été ministre de Gaulle. Alors, De Gaulle ne le supporte pas trop, celui-ci.
Oui, vous savez, tout ça est tissé de relations personnelles aussi. Bon, et De Gaulle, je crois qu'il faut se rappeler des conditions dans lesquelles... d'abord, tout est lié à Jean Moulin, au fond. De Gaulle n'a jamais... considéré que Moulin avait un successeur à la tête du Conseil national de la Résistance. Il devait beaucoup à Jean Moulin. Et donc, celui qui a succédé à Jean Moulin, c'est Georges Bidault. Déjà, c'est un facteur d'agacement pour De Gaulle. D'autant plus que Bidault était un peu entre les mains des communistes à ce moment-là. Au sein du CNR, les communistes avaient pris un poids considérable et Bidault n'était pas en mesure de faire face. Bidault, en plus, avait quelques travers, notamment l'alcool. Tout le monde savait qu'il buvait, ce qui, pour De Gaulle, était insupportable. Il le méprisait. Alors, il lui a confié les affaires étrangères, mais avec l'idée que c'est lui qui s'en occuperait directement et que Bidault serait relégué. Donc il n'a pas cessé de l'humilier. Il y a une anecdote qui est dans le livre, qui est très symptomatique de l'état de leur relation. Un jour, il est à l'Assemblée, Bidault chevrotte un peu, enfin son discours n'est pas très clair et il répète des choses enfin de manière un peu comme ça, un peu confuse. Et il descend de la tribune, il se rapproche du banc du gouvernement où se trouve De Gaulle et Bidault lui dit je n'ai pas été trop lamentable, et De Gaulle lui répond non, vous n'en avez pas eu le temps.
Alors, d'autres noms, il y a Robert Schuman, Guy Mollet, il y a Léon Blum. Léon Blum qui conserve un certain prestige.
Oui, c'est mitigé, vous savez. Je pense
l'homme du Front Populaire.
Oui, oui, oui. Disons qu'il avait été quand même très déçu en 1936 que Blum ne le suive pas dans sa croisade pour l'armement blindé. Mais ce qui ne voulait pas dire que le Front Populaire n'avait pas fait des choses en termes d'armement, mais il ne l'a pas suivi. Bon, après, ils ont correspondu. Je crois qu'il avait de l'estime pour Blum. Ils ont correspondu. Blum a contribué aussi à le légitimer politiquement et démocratiquement pendant la période de la France libre. Il y a eu des démarches faites par les socialistes auprès notamment de Roosevelt. Blum avait expliqué une chose d'ailleurs qui a marqué De Gaulle, c'est que on ne peut pas faire une démocratie, une république sans les partis politiques. À un moment donné où De Gaulle pensait que les partis politiques, ça allait bien, quoi. Il avait quand même contribué en grande partie à la défaite par le dérèglement du système politique de l'époque. Bref, la grande déception de De Gaulle, c'est que dans un moment où il pense qu'il va quitter le gouvernement, parce qu'il n'en peut plus des partis, parce qu'il ne peut pas gouverner comme il le veut, qu'on prépare une constitution qui n'est pas celle qu'il veut.
Il menace, il laisse entendre qu'il pourrait
partir.
Oui,
bien sûr, mais il va voir Blum. Et il lui dit, écoutez, si je m'en vais, il n'y en a qu'un qui peut me remplacer, c'est vous. Et Blum lui dit, écoutez, je ne peux pas, moi je dois d'abord m'occuper de redresser la SFIO. Vous voyez, SFIO qui était le parti socialiste de l'époque. Vous voyez la différence d'hommes d'État. Il y en a un qui est obsédé par l'intérêt national et qui, pour qui tout tout doit s'effacer sur l'international. Il y en a l'autre qui lui répond par l'intérêt de son parti. Voilà, c'est toute la différence. Donc je ne peux pas dire que dans les mémoires de guerre, il a des propos sur Blum qui sont quand même très mitigés. Je pense qu'il avait de l'estime pour cet homme et énormément de déception.
On marque un nouvel intermède musical, petite pause musicale. Je rappelle que c'est Jean-Luc Barré qui nous accompagne. On parle de Gaulle en long, en large et en travers. Personnage saisissant, passionnant, à découvrir. C'est l'homme que vous connaissez le mieux.
Oh, je ne sais pas, en tout cas je le connais, oui. Il reste beaucoup à découvrir encore.
Le premier des Français 1944-1958, c'est le tome 2 donc, de cette trilogie biographique disponible chez Grasset. On revient juste après la petite virgule musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Luc Barré, de Gaulle en 46 est exaspéré par le jeu des partis politiques, SFIO, Parti communiste. Vous écrivez, page 288, Charles de Gaulle est un homme de théâtre. C'est en maître de l'art dramatique qu'il va régler sa sortie de scène. C'est donc le 20 janvier 1946, De Gaulle claque la porte, comme avait titré un journal, De Gaulle s'en va.
Oui, il s'en va pas uniquement pour une question de mise en scène. Il avait le sens de la mise en scène, mais il considère qu'il n'a plus les moyens de gouverner. Voilà. Il y a eu une séance à l'Assemblée où il a dû affronter les partis sur les crédits de la défense nationale, enfin tout ça lui a été insupportable. Donc, et qui plus est, on prépare une constitution dans laquelle le rôle du président de la République, c'est-à-dire le sien, parce que c'est clair qu'il sera le président de la République, est réduit à l'état larvaire. Enfin, il n'a même pas le droit d'exercer le droit de grâce. Bon. Donc, il considère que ce n'est pas possible. Il veut un pouvoir exécutif fort. On lui propose un pouvoir parlementaire fort et on ne change rien à ce qui se passait avant. Donc, il s'en va. Il s'en va, mais il s'en va avec l'idée tout de même qu'on va le rappeler très vite. Voilà. Donc évidemment, c'est le grand malentendu de janvier 1946. Mais de toute façon, il fallait qu'il parte.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que le pays ne réagit pas non plus. Non, Français ne rappellent, ne demandent pas à ce que De Gaulle revienne.
Écoutez, je pense qu'il faut, se rappeler une chose, si on veut comprendre ça. Après la guerre, après une guerre comme celle-là, mais c'est vrai aussi pour la Grande Guerre, on a oublié qu'en 1920, Clémenceau a été battu à la présidence de la République. On a oublié qu'à la fin de la guerre de 40, Churchill a été battu aux élections. Comme si tous ces grands hommes, qui étaient quand même sur un niveau d'exigence par rapport au pays, avaient fini par lasser, au fond, et que, à force de parler de la grandeur, je pense que les gens... Le peuple français a voulu retrouver une vie normale. Et je pense que c'est le retour à la normale. Avec De Gaulle, il n'y a pas de retour à la normale. On est toujours sur une tension, on est toujours sur les hauteurs, on est toujours sur le paroxysme. Donc, je pense qu'il y a ça, je pense que les pays... Et puis, n'oublions pas que les conditions matérielles du pays faisaient que la popularité de De Gaulle n'était pas extrême. Au fond, les gens, finalement, ils avaient envie de pouvoir... Il y avait quand même des tickets d'alimentation, il y avait tout ça. Donc je pense que la crise économique a joué aussi, et que De Gaulle soit là ou pas là, ça ne, pour les gens, au fond, la majorité des gens, ça ne changeait rien. Il y a eu effectivement, de la part des gaullistes, pur et dur. Mais enfin, n'oubliez pas la manière dont il avait traité les résistants, etc. Donc je pense qu'il y a un moment où que De Gaulle s'en aille en 1946, on va le regretter très vite, naturellement. Mais enfin, à se mobiliser pour qu'il revienne, non.
Alors, qui peut se réjouir du départ de De Gaulle en janvier 1946?
Mais les partis politiques. Les partis politiques.
Est-ce que les Américains, les Soviétiques, les Britanniques?
Non, mais de toute façon, vous savez, Staline considérait que De Gaulle... D'abord, Staline était un homme de toute petite taille, donc il était exaspéré par cet homme qu'il fallait toujours qu'il lève le nez pour le regarder. Il n'aimait pas De Gaulle. Il le respectait, mais il ne l'aimait pas. Churchill n'était plus là. Et Roosevelt n'était plus là puisqu'il était mort, et c'est Truman qui était là. Non, je crois que c'était un personnage qu'il trouvait insupportable, et n'oubliez pas surtout qu'il était tellement exigeant pour son pays que De Gaulle n'est plus là, ça veut dire que la France sera moins exigeante, donc c'est très confortable de ne plus avoir De Gaulle. On va s'accommoder des dirigeants successifs. De Gaulle, c'est un encombrant quelque part, c'est un homme qui est tout le temps en train de demander l'indépendance de son pays, qui contrecarre les projets des alliés. Non, je crois qu'il ne le regrette absolument pas.
Alors, De Gaulle doit quitter Paris. Il ne peut pas s'installer à Colombier-les-Deux-Églises dans sa propriété de la Boisserie qui a été abîmée. Il y a eu un début d'incendie. Elle a été saccagée plus ou moins par les Allemands.
Ah, c'est pas plus ou moins. Elle a été saccagée par les Allemands quand ils ont quitté Colombier. Ils l'occupaient. Ils ont brûlé un ensemble de choses. Et puis, il a trouvé une propriété dévastée, oui.
Alors, est-ce qu'on peut dire que De Gaulle, en ayant quitté les affaires, se retrouve un peu reclus, s'ennuie et...
Oui,
ne se sent pas très bien.
Finalement. Non, mais je pense que c'est une période difficile. On a parlé de traversée du désert, je démontre que c'est un peu abusif parce que, en réalité, je parle moi d'une solitude peuplée, c'est-à-dire il a vu beaucoup de gens dans cette période. Mais enfin, quand même, il est en exil surtout.
Yvonne De Gaulle est plutôt contente.
Plutôt contente. Elle l'a retrouvé, voilà, puis elle en a marre finalement de tout ça, parce que c'est quand même une vie difficile qu'ils ont eue pendant la guerre. Bon. Et puis j'ai une petite fille malade, hein, faut pas l'oublier. Bon, non, au fond, c'est pas qu'il s'ennuie, c'est qu'il a peur de s'ennuyer surtout. Et donc très vite, nous sommes en juin 46, il va à Bayeux, organise son premier grand meeting, discours de Bayeux dans lequel il pose les fondamentaux de la future 5e République, au fond, de la façon dont il faut gérer le pays avec un pouvoir exécutif fort. Il va lancer le RPF en 1947, et c'est vraiment son initiative. Le RPF, c'est le Rassemblement du Peuple Français, c'est-à-dire ce grand mouvement politique que Pierre Brossolette lui avait conseillé de créer avant la Libération, et lui, De Gaulle, avait choisi de rétablir les partis au sein du CNR, donc ça c'est le conseil de Jean Moulin, mais Brossolette lui avait dit il faut faire un grand parti travailliste, bon. Ou en tout cas un grand rassemblement. Il n'avait pas voulu le faire, mais il s'est aperçu que s'il l'avait eu en 1945, peut-être que les choses seraient passées différemment. Donc il va créer ce... Donc au fond, il ne perd pas une minute, et entre 1947 et 1953, il est tout le temps sur le terrain, il fait des grands meetings, il voit les Français, et il se bat, il fait campagne pour les élections. En effet, mais c'est l'exil, quoi. C'est l'exil, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'histoire. À un moment quand même capital, où il y a encore Staline au pouvoir, où il y a la guerre froide, où il y a des risques de guerre, il est hanté par l'idée d'une troisième guerre mondiale.
Alors, il n'est plus dans l'histoire, mais il écrit l'histoire, puisqu'il...
Oui, bah, après, il va écrire ses mémoires, mais voilà, ça, c'est à partir de 54. Mais enfin, le fait de ne plus être dans l'histoire, alors qu'il l'était dans l'histoire, et c'est peut-être ça la plus grande souffrance, surtout qu'il mesure à quel point le fait de ne plus être dans l'histoire crée véritablement un vide. C'est parce qu'il y a une médiocrité évidente de la classe politique. Et il y a surtout, quel que soit, il y avait Pleven, il y avait Bidault, il y avait Mendès France, etc. Mais c'est le système qui était complètement vérolé et qui n'autorisait pas la stabilité des gouvernements et qui surtout empêchait la cohérence d'une politique, et notamment... Le plus dramatique, c'est l'incapacité à régler le problème colonial. Bon, il y a eu l'Indochine, il va y avoir l'Algérie, donc l'État échappe finalement au contrôle des politiques. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé avec les deux derniers gouvernements, avant celui de Sébastien Lecornu. Vous avez bien vu qu'en 3 mois, on change de gouvernement, et tout le monde est un peu sidéré de ça. Eh bien, songez que ça a duré 12 ans.
Ouais. Alors, petite anecdote. Eisenhower avait offert une Cadillac à De Gaulle.
Oui. Et Truman lui avait même offert un avion. Oui, c'était pas une Cadillac pour lui. C'était une Cadillac offerte au chef de gouvernement.
Alors, De Gaulle est surveillé quand même. Les autorités le surveillent quand même. On se méfie de De Gaulle.
Bien sûr.
On imagine qu'il est peut-être capable de faire un coup de force.
Oui, non, bien sûr. Non, mais c'était d'ailleurs pas... C'était pas dans la nature de De Gaulle de faire un coup de force au sens d'un coup d'État militaire. Alors vous pourrez me parler peut-être, si on a le temps d'en parler, mais de ce qui s'est passé en 58. De Gaulle a toujours imaginé de toute façon qu'il fallait un pouvoir fort. Bon, voilà. Mais en même temps, comme il le dira en 58, sa fameuse conférence de presse, où il dit « c'est pas 67 ans que je vais faire une carrière de dictateur », et il dit « mais je vous rappelle que c'est moi qui ai rétabli la démocratie et la République, les libertés publiques ». Bon. Et de ce point de vue-là, même si c'est une conversion, De Gaulle est républicain et démocrate. Bon. Et donc, il n'est pas question, mais enfin, il y a des pressions qui s'exercent sur lui, et ça fait partie des... En tout cas, peut-être que tôt ou tard, il avait une formule d'ailleurs qui était assez amusante, il disait qu'il faudra faire le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, sans les moyens du 2 décembre. C'est-à-dire, au fond, il faut prendre le pouvoir, mais sans passer par un coup d'État. Donc, comment arriver à cela? On sait ce qui se passera en mai 58, même s'il n'y a pas eu de coup d'État, hein, mais... Il y a un moment où il faut peut-être exercer une telle pression que le régime finisse par lâcher.
Et De Gaulle revient en 58 dans un moment à nouveau où la France vacille.
Oui, mais au fond, j'allais dire, De Gaulle est là.
Rien ne va plus.
De Gaulle est là pour ça, quelque part. Je veux dire, De Gaulle n'est pas non plus le temps des périodes ordinaires. Je pense qu'il aurait fait finalement entre... S'il était resté au pouvoir entre 46 et 58, peut-être qu'il serait banalisé, au fond. Et De Gaulle est là dans les situations majeures, là où l'histoire l'appelle, c'est 40, c'est 58. Il pressent que, de toute façon, l'histoire, à nouveau, les événements sont tellement dramatiques en Algérie que ce qu'il appelle la grande secousse va finir par se produire. Et qu'à partir de là, l'homme providentiel, dont il n'a pas cessé de sculpter la statue, hein, même dans ses mémoires, c'est à lui qu'on... Il n'y a que lui, parce qu'en 58, on a épuisé, toute la classe politique a été épuisée.
Et en 58, on le rappelle tout de même pour maintenir l'Algérie département français.
Non, ça, ce qui le rappelle, ceux qui font appel à lui plutôt, c'est l'armée et c'est un certain nombre de gaullistes qui sont Algérie française, Michel Debré, et puis les militaires. Mais ce serait trop long aussi de développer, mais je veux dire, De Gaulle a une certaine vision de la question coloniale. Depuis 1944, il dit autour de lui, en privé certes, mais il l'a prouvé aussi dans les actes, puisque c'est lui qui a établi en Algérie les premières réformes en faveur des musulmans, en 1943, on l'a oublié. Il est convaincu de la fin du système colonial, et il est convaincu que l'Algérie sera tôt ou tard indépendante. Mais il arrive au pouvoir en 1958 pour régler un problème. Il est rappelé par des militaires qu'il a plus ou moins manipulés, c'est entendu, en leur laissant croire, en tout cas, il n'a jamais dit à aucun de ses militaires « je serai pour le maintien de l'Algérie française ». Il n'a cessé de parler d'association, y compris là, publiquement en 1955, lors d'une conférence de presse. Il dit « je pense que c'est pas d'intégration, parce que ça n'est pas possible ». On ne peut pas intégrer la France et l'Algérie comme le voulaient les coloniaux. Mais on peut créer une espèce d'association, au fond, aménager l'indépendance de l'Algérie. Alors, il le dit sans le dire, c'est évident. Je veux dire, son discours, le fameux discours de juin 58, je vous ai compris, c'est magistral, si vous voulez. Si je vous dis je vous ai compris, vous allez me dire il a compris quoi. Bon, donc c'est évidemment l'art, c'est le verbe, c'est le sens du verbe. Il dira une seule fois, vive l'Algérie française à Mostaganem. On n'arrête pas de citer cet exemple, il ne l'a jamais dit autrement. Il l'a dit un jour devant une foule massive qui criait Algérie française, Algérie française. Il a fini par dire Algérie française, mais il était convaincu de toute façon que tôt ou tard, ce pays deviendrait indépendant. Il n'y a pas de doute. Mais c'est évidemment un rapport très complexe. Comment aurait-il pu dire en mai 58 à ceux qui lui avaient permis de revenir au pouvoir et qui tenaient Alger, qui tenaient l'Algérie, bon, et qui étaient prêts à nouveau à faire un coup d'État, pour le coup, si les choses avaient tourné mal avec De Gaulle, comment aurait-il pu leur dire, écoutez, je suis pour l'Algérie française. Bon, ça aurait duré 48 heures. Voilà. Donc c'est là où vous trouvez un personnage assez machiavélique, évidemment, qui gagne du temps et qui a bien l'intention de faire prévaloir, là aussi comme en 1944, l'intérêt national sur l'intérêt particulier.
Alors De Gaulle, c'est une stature, il a incarné de manière très, très forte et convaincante la fonction du président de la République. Pompidou, c'était fort bien. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, c'était pas mal. Jacques Chirac, ça peut encore aller. Et alors après, c'est la dégringolade.
Oui, oui. Vous avez l'air de poser des questions sur lesquelles les réponses pourraient durer des heures. Mais oui, enfin, il avait dit une chose quand même qui était assez claire. Il avait été interrogé un jour dans une conférence de presse et il avait dit « Après vous, mon général ». Il avait dit « Mais après moi, ça ne sera pas le vide, ça sera le trop-plein. » D'abord, donc le trop-plein, nous l'avons aujourd'hui. Je pense qu'il était assez sceptique. Vous savez, De Gaulle, il y a un moment exceptionnel avec De Gaulle. Il avait réussi à faire ses institutions, qui sont un garde-fou, un rempart contre le système des partis. Bon, on est revenu au système des partis, l'air de rien. Je ne pense pas de manière durable, mais on y est. Et d'une certaine manière, il était lucide sur ses successeurs. Je crois qu'il n'a jamais pensé... D'abord, il a été lucide d'emblée sur Georges Pompidou. Bon, bien sûr, c'était son héritier, mais un héritier qui avait un peu poussé la porte quand même. De Gaulle ne l'avait pas désigné. Et puis il avait contribué un peu au départ du général De Gaulle. Donc je pense qu'il était lucide sur le fait que ce qu'il avait réussi à conjurer, lui, reviendrait. Comme si c'était une espèce de mal inéluctable. De la fois la démocratie. Excusez-moi. La démocratie est un peu le. Oui, il parlait de la démocratie de manière lucide, quoi. Voilà.
En tout cas, merci Jean-Luc Barré de nous avoir accompagnés autour de Gaulle aujourd'hui dans Wagon Livre. Donc je rappelle, actuellement en librairie, donc les tomes 1 et tome 2 de ce De Gaulle, une vie. Donc le tome 1, L'homme de personne, c'est chez Grasset. Grasset d'ailleurs qui a eu d'ailleurs pas mal de petits soucis à la Libération.
Ah oui, oui.
Ah, ouais, bon, passons.
C'est pas les mêmes dirigeants.
Tout à fait. Et puis le tome 2, Le premier des Français 1944-1958. Et donc en 2027, si tout va bien, voilà. Le tome 3 pour conclure, Le dernier souverain 1970, année de la mort du général de Gaulle. Merci Jean-Luc Barré. Si nos auditeurs ont manqué une partie de notre émission, c'est très simple. Ils vont sur yannickpetit.fr et ils retrouvent l'émission en podcast, on n'a pas, ou en balado-diffusion, pour utiliser un mot français. Voilà, excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir Jean-Luc Barré.
Merci.
Au revoir à toutes et à tous.